RCF. Nos frères aînés, Noémie Marijon.
Elle est la première femme, la mère de l'humanité tout entière. Étymologiquement, c'est celle qui donne la vie. Diverses lectures de la Bible en ont fait l'archétype de la tentatrice et de la pécheresse, mais aussi la figure de la maternité avec un grand M. Aujourd'hui, dans Nos frères aînés, on va ouvrir le dossier Ève avec Ruth Wasana. Ruth, vous êtes une actrice importante du dialogue interculturel et interreligieux, notamment au sein de l'association Les Racines de Demain et de l'Amitié judéo-chrétienne de France, en particulier à Lyon. Vous fréquentez assidûment les femmes de la Bible. Bonjour Ruth.
Bonjour Noémie.
Est-ce que vous pouvez nous raconter cette création alors d'Adam et Ève, d'Ève ?
Ce qui est intéressant dans le texte, c'est que Adam ne vient pas tout seul. Adam... L'homme, on parle de l'homme au départ, Dieu dit « faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, et c'est à l'image de Dieu qu'il le créa. Mâle et femelle furent créés à la fois », c'est-à-dire que l'homme, qui est tiré de la terre, est au départ à la fois mâle et femelle, c'est-à-dire un être androgyne, un être qui possède... toute cette richesse à l'intérieur de lui-même. Et Dieu bénit cet homme, mais il dit, c'est marqué dans la Bible, Dieu les bénit en leur disant « croissez, multipliez, remplissez la terre », etc. Ça, c'est dans le premier chapitre. C'est au moment où on parle de la création de l'être humain. Et dans le deuxième chapitre, on revient plus en détail sur le contenu, sur la manière dont l'homme va être créé. Et c'est intéressant de se pencher dessus parce que il y a eu pendant de nombreux siècles des interprétations diverses sur ce texte. Et c'est toujours intéressant de pouvoir un petit peu le voir avec d'autres yeux. J'ai envie de dire depuis de nombreux siècles, mais si on reprend déjà Rashi.
Alors, Rashi, qui c'est ?
Rashi, c'est un grand rabbin français. Et là, on peut faire un cocorico au niveau mondial parce que tous les juifs du monde étudient la Bible juive, la Bible et le Talmud à l'aune des commentaires de Rashi. Donc, le grand rabbin Rashi qui vivait à Troyes.
Et à quelle période ?
Dans les années au XIe siècle. Et donc, Rashi, déjà, précise que la côte d'Adam est le côté de Adam. Et ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Dès Rashi, on voit que lorsqu'il est écrit « donc Dieu créa l'homme à son image, mâle et femelle furent créés à la fois », on voit ensuite dans la création, au chapitre 2, dans la création de l'homme, « Dieu façonna l'homme ». Mais l'homme, c'est Adam. Adam, c'est-à-dire celui qui est fait de la terre. Adama, c'est la terre. Il va lui faire choisir une compagne à ses côtés, sauf qu'il ne trouve pas de compagne. Et pour une bonne raison, c'est qu'il est déjà...
Mâle et femelle.
Mâle et femelle, qu'il est déjà complet. Il est déjà dans une complétude. Et donc, pour pouvoir lui trouver une compagne, qu'est-ce qu'on va devoir faire ? Qu'est-ce que Dieu va devoir faire ? C'est séparer en deux. Et ce qui est très intéressant, c'est que la lecture qu'on entend beaucoup, que Dieu, et on le voit également dans le texte, dans la traduction de la Bible, dans la traduction rabbinique de la Bible, Dieu prit une de ses côtes et forma un tissu de chair à la place. Et on voit déjà dans Rashi qu'une de ses côtes, c'est-à-dire un de ses côtés.
Donc ça souligne bien qu'il a été séparé en deux.
Exactement. Exactement. Un de ses côtés, il s'appuie sur Tsela, qui est le mot qui est utilisé, donc qui veut dire à la fois côte et côté, en disant donc dans l'Exode, au moment de la création du sanctuaire, du temple portatif.
Temple portatif, qu'est-ce que c'est ?
C'était le avant la création du temple. À Jérusalem, c'est l'endroit dans lequel les Hébreux devaient contenir justement les tables de la loi, les commandements donnés par Dieu. Et donc c'est l'endroit le plus précieux et le plus sacré pour les Juifs. Et les côtés de ce temple portatif, de ce sanctuaire, il est utilisé le même mot, Tsela, pour les côtés de ce temple. Et donc, on retrouve ce même terme, Tsela, la côte ou le côté de Adam, pour créer Ève. Il prit un de ses côtés et forma un tissu de chair à la place, à cette place. C'est donc un endormissement qui va permettre à l'homme comme à la femme de pouvoir se créer. Parce qu'on voit ensuite la dénomination, celle-ci pour le coup est un membre extrait de mes membres et une chair de ma chair, oui effectivement, puisque c'est lui-même qui a été divisé en deux, elle sera nommée Isha parce qu'elle a été prise de Ish. Alors là, un petit cours d'hébreu.
Avec plaisir.
Dans Isha et dans Ish, on a trois lettres à chaque fois.
Jusque-là, je vous suis.
Oui, et à chaque fois une lettre qui est différente. Les deux lettres qui sont identiques, c'est Esh pour le feu, et les deux lettres qui sont différentes forment le nom de Dieu.
D'accord.
Et il y a un petit clin d'œil qui est fait dans les commentaires rabbiniques qui dit que quand Dieu est avec Ish et Isha, est avec l'homme et la femme, tout se passe très bien, et en l'absence de Dieu, parfois ça peut être un peu compliqué.
Ah, ça, on le garde pour un peu plus tard.
Effectivement. La recherche de la moitié perdue, comme on le trouve dans les textes rabbiniques, c'est quelque chose qui nous fait penser au banquet de Platon, quand les deux parties d'un même être sont séparées et cherchent à se retrouver. C'est exactement ce qu'on retrouve dans la Bible. C'est l'unité originelle qui est demandée, qui est recherchée et qui va être trouvée au final dans la phrase. Donc après la dénomination Isha et Ish, on retrouve une petite phrase. C'est pourquoi l'homme abandonne son père et sa mère, il s'unit à sa femme et ils deviennent une seule chair. Ici, on parle de revenir sur l'unité originelle. Et il y a un petit point que j'ai trouvé intéressant dans les commentaires, c'est que l'homme abandonne son père et sa mère, puis il s'unit à sa femme. C'est-à-dire que là, on est dans la négation de l'inceste.
Oui, déjà, il faut qu'il y ait une séparation avant d'aller vers une union.
Exactement. Une séparation et aller vers l'union de celle qui deviendra sa femme, de celle avec qui il refera une seule chair. Et c'est quelque chose qui est intéressant parce que dans le judaïsme, la communion de chair est importante. Le plaisir dans l'union conjugale est considéré comme légitime et nécessaire à la vie harmonieuse du couple. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va retrouver dans les bénédictions nuptiales. Il y a 7 bénédictions dans le mariage juif et une des bénédictions dit « Puisses-tu réjouir les jeunes mariés comme tu t'es réjoui de leur création dans le jardin d'Éden ?» Donc on fait directement référence dans le mariage
à cette union Ish et Isha dès le départ.
Exactement. Et le fait de ne former qu'une seule chair, qui veut dire à la fois une seule chair physiquement et au niveau de l'âme en créant un enfant, mais la relation de l'homme et de la femme n'est pas uniquement dans la procréation, mais également dans le plaisir,
dans l'acte sexuel.
Dans l'acte sexuel et dans le fait de pouvoir atteindre un autre niveau dans la création du couple et dans le fondement du couple à travers ce plaisir conjugal.
RCF, nos frères aînés.
Et alors, est-ce que cette création de Ish et Isha peut nous aider à vivre nos couples aujourd'hui en 2021? Qu'est-ce qu'on peut en tirer justement de cette question de séparation, de fusion?
Alors, il y a un petit point qu'on n'a pas vu et qui peut nous aider justement là-dedans. C'est « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide à ses côtés ». C'est la traduction en général qu'on trouve dans la Bible, enfin dans les cas dans la Bible juive. Et le texte en hébreu dit « Ezer kenegdu », c'est-à-dire une aide contre lui. Qu'est-ce que ça veut dire ?
C'est pas exactement la même chose.
C'est pas exactement la même chose. Qu'est-ce que ça veut dire qu'une aide contre lui ? Alors, il y a des commentateurs qui disent « une aide pour lui s'il en est digne » et s'il n'est pas digne de son aide, elle sera son adversaire. Il y a un autre commentaire qui dit effectivement la femme est une aide contre lui, c'est-à-dire on peut la retrouver comme dans un fondement d'une maison. C'est-à-dire que si un mur est seul,
il tombe.
Si un mur a quelque chose qui est contre lui, qui a un arc-boutant, merci, c'est le terme que je cherchais effectivement, eh bien dans ces cas-là, il peut se tenir droit. Et donc cet arc-boutant, c'est quoi? C'est le fait de pouvoir avoir dans sa femme un partenaire, quelqu'un qui ne soit pas forcément d'accord avec lui et qui lui dise toujours amen à tout ce qu'il dit, mais quelqu'un qui va le provoquer intellectuellement, qui va parfois remettre en question ce qu'il peut dire, va l'aider en fait à réfléchir en lui-même à ce qu'il souhaite vraiment, à ce qu'il veut vraiment, et à pouvoir trouver en lui-même les ressources pour pouvoir avancer plus loin. Et s'il est tout seul, il n'aura pas forcément besoin d'aller rechercher cela, alors qu'avec sa femme, il ira à la recherche de ses ressources. Et donc, c'est une aide contre lui, parce qu'elle peut effectivement, c'est pas en étant juste avec lui que ça va l'aider, mais c'est en étant thought-provoking, en l'aidant à réfléchir et à avancer ensemble.
Merci beaucoup, Ruth, pour votre regard enrichissant sur la figure de la première femme, qui n'est pas encore Ève, et qui n'est plus du tout dans notre tête la femme fatale par excellence maintenant. La semaine prochaine, dans Nos Frères Aînés, nous continuerons à étudier la mère de l'humanité en nous intéressant à ce qui se passe au sein du Jardin d'Éden. On peut retrouver les actions de votre association Les Racines de Demain sur votre site internet et notamment vos initiatives pédagogiques autour du Shabbat. Bonne journée à tous et toutes et on se retrouve bientôt sur l'antenne d'RCF.